Courbons-nous en tête un moment. Merci Seigneur Dieu, encore une fois, pour cette occasion que nous avons d'étudier ta parole. C'est une bonne opportunité pour nous d'entendre ta voix, parler à ton peuple. Mais c'est tout un privilège aussi que nous avons. Comme nous venons de le chanter, tu es le roi victorieux, tu règnes dans les cieux. Et tu prends encore la peine par ton Saint-Esprit de parler à des pécheurs comme nous. Des gens qui t'avons trop de fois tourné le dos, nous t'avons humilié. Transforme-nous, c'est notre souhait, à la ressemblance de ton Fils Jésus, qui est sur terre à montrer une persévérance, une obéissance sans faille jusqu'à la mort. Rends-nous semblables à lui dans notre caractère, dans nos capacités, dans notre dévouement. Et sers-toi de ta parole ce matin pour nous transformer. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Donc, on étudie l'Évangile de Luc depuis un bon petit bout. Et il y a eu un moment tournant dans le récit, à partir de la fin du chapitre 9. Jésus a pris la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Pourquoi? Pour aller être couronné comme roi? Non, il sait ce qui l'attend. C'est pour aller mourir. Mais il a pris la ferme résolution de se rendre jusqu'à Jérusalem. Il a envoyé devant lui ses disciples, ses apôtres, évangéliser dans toutes les villes et les villages. Et lui-même, dans son trajet, passe de ville en village pour se rendre jusqu'à Jérusalem, où il sait que ce qui l'attend, c'est de mourir. Mais il est vaillant dans son combat jusqu'à la fin. Il ne se relâche pas. Et il est lui-même l'exemple pour ceux qu'il appelle à être ses disciples. Et en chemin, plusieurs fois, il a enseigné qu'est-ce que ça implique d'être un disciple de Jésus. Et ce n'est pas une petite chose. Ça change toute la vie. Il a commencé par dire à la fin du chapitre 9 qu'il faut le mettre, lui, en priorité dans sa vie, avant toute autre chose. Avant même ses propres besoins. Et il donne l'exemple que lui-même, il n'a même pas d'endroit où poser sa tête pour dormir. Donc, ça implique que celui qui le suit risque d'être dans la même situation. De le faire passer même avant ses propres relations familiales, avant même d'enterrer un mort ou de saluer ses proches dans sa famille. Jésus passe avant tout cela. Au chapitre 10, il indique aussi que ça demande carrément un changement d'attitude, d'être humble comme un enfant. Plus loin, il dit d'avoir un amour envers les autres, un amour qui est miséricordieux, qui est prêt à donner sans même se poser la question est-ce qu'il le mérite ou non, d'avoir de la grâce pour les frères. Et c'est la parabole du bon samaritain qui est donnée en exemple, où l'homme qui souffrait n'avait rien fait pour mériter le secours du samaritain. Et Jésus dit, si vous voulez être mon disciple, vous devez être comme lui. Au chapitre 11, il enchaîne en disant que être un disciple de Jésus, ça implique de prendre position pour lui, être dans son camp ouvertement, et même de faire le même travail qu'il fait, c'est-à-dire d'assembler les hommes et les femmes à Jésus. Ceux qui ne sont pas avec lui sont automatiquement contre lui. Ils n'assemblent pas, ils vont dans la direction opposée. Ça implique aussi d'écouter la parole de Dieu, de la garder, de la mettre en pratique. Toujours dans le chapitre 11, Jésus parle aussi du devoir de purifier son cœur. C'est l'intérieur qui est important, plus que l'extérieur. Et puisqu'on est dans un monde où il y a toutes sortes d'attaques, être un disciple de Jésus, ça veut dire de faire preuve de courage. Ça demande le courage d'aller dans le monde sans crainte, sans craindre le monde, de ne pas s'inquiéter même de ce qui pourrait arriver. Vraiment faire confiance au Seigneur. Pour cela même, ne pas s'attacher, ne pas porter d'attention aux soucis de la vie, ne pas s'attacher littéralement à l'argent, qui peut être une grande distraction, une des plus grandes distractions qu'on peut connaître sur cette terre. Ne pas s'attacher à l'argent pendant notre temps sur la terre. D'être au contraire vigilant, de veiller, ne pas s'endormir dans l'attente du retour du Seigneur. Il continue au chapitre 13. Ce que ça implique d'être un disciple de Jésus, ça veut dire de se repentir de sa vie de péché pour une nouvelle vie d'obéissance à Jésus. Donc, changer complètement de vie. Ça veut dire un effort qui est soutenu. Et l'image qui est employée au chapitre 13, c'est de s'efforcer d'entrer par la porte qui est étroite. Ce n'est pas une porte vaste que c'est facile d'y entrer sans même porter attention. Ça demande un effort conscient d'être un disciple de Jésus. Et ça implique, dans la vie de tous les jours, d'avoir de la compassion pour ses frères, puisque ce n'est pas une marche qui est indépendante des relations sur la terre. Au contraire, c'est directement appliqué à nos relations avec les hommes. Donc, ça demande une compassion pour les frères qui souffrent, d'être prêt à les servir humblement, sans chercher son propre intérêt. Vraiment un renoncement à soi-même, un sacrifice. D'offrir toute sa vie, finalement, en sacrifice. Et comme on l'a vu la semaine passée dans la lecture avec le pasteur Dominique, au chapitre 14, de mettre Jésus en priorité dans sa vie, étant prêt à porter sa croix tous les jours, en acceptant de perdre même, s'il le faut, des relations familiales, être prêt même à perdre sa vie. Que les gens du monde, lorsqu'ils nous regardent, ils vont dire, écoute donc, il n'a pas de vie, lui. Mais pour être un disciple de Jésus, c'est ce que ça demande. Donc, la description que Jésus fait de ville en village, là, de qu'est-ce que c'est qu'un vrai disciple, c'est exigeant, vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas là pour flatter les gens dans le sens du poil, pour leur dire ce qu'ils veulent entendre, des paroles plaisantes. Il leur dit vraiment ce que ça veut dire. Et Jésus termine son enseignement, on l'a vu la semaine passée, à la fin du chapitre 14, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce n'est pas tous qui l'entendaient. Oui, tous pouvaient entendre les paroles qu'il disait, mais ici, ce que Jésus veut dire, c'est d'entendre volontairement, on pourrait dire, écouter. Donc, celui qui a vraiment des oreilles, là, qu'il m'écoute. Et qui sont ceux qui étaient plus portés à écouter Jésus? Qui sont ceux, finalement, qui l'ont écouté pendant sa route vers Jérusalem? C'est principalement ceux qui étaient des pécheurs, ceux qui étaient déjà perdus, ceux qui se voyaient pécheurs et qui étaient prêts à entendre Jésus. Donc, principalement des pécheurs. Et pour ça, nous allons lire juste l'introduction de deux paraboles qu'on va étudier par la suite. Mais si on va dans Luc 15, les deux premiers versets. Évangile de Luc, chapitre 15, verset 1. Tous les péagers, tous les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, « Celui-ci accueille des pécheurs et il mange avec eux. » Ils étaient outrés. Donc, qui venait principalement entendre Jésus? Il y avait des pharisiens aussi qui étaient là, des scribes. Mais qui sont ceux qui l'entendaient? Qui sont ceux qui avaient des oreilles pour l'entendre? C'était principalement des péagers, des pécheurs. Des péagers, on pourrait traduire aussi publicains, fonctionnaires publics, ouais, collecteurs d'impôts. Ils étaient très mal vus par la population à l'époque parce qu'ils, finalement, ils étaient engagés, embauchés par Rome. Ils étaient des travailleurs de l'Empire pour ramasser les taxes, l'impôt des Juifs et envoyer ça dans le trésor de César. Et au passage, en plus, ils s'en remplissaient les poches. Du moins, ils avaient la réputation de devenir riches sur le dos de la population. Donc, ils étaient haïs. Et ils étaient vus comme des traîtres à la nation. Mais on doit dire qu'il y a un peu de vrai là-dedans. C'est vrai que dans un sens, qu'ils étaient en train de servir l'ennemi. Bon, est-ce qu'ils étaient tous aussi méchants que les pharisiens pouvaient le dire, là? Ils étaient même considérés comme impurs. S'ajoutaient à eux les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui menaient une vie de péché, une mauvaise vie, aux yeux des autorités, des chefs religieux. Soit que, littéralement, c'était des gens qui enfreignaient les commandements de l'Ancien Testament, ils vivaient dans le péché, soit un péché d'ordre sexuel, donc ils vivaient en couple sans être mariés, concubinage, ou dans l'adultère, ou répudiaient sa femme, ou en avaient plusieurs, ou c'était la fornication, ou la prostitution, ou tout péché d'ordre sexuel qui était connu. Ces gens-là étaient considérés comme mener une vie de pécheur. Ou des gens qui avaient un abus. Bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de drogue, je pense, mais c'est principalement un abus d'alcool qu'on pouvait faire, ou un abus de nourriture, ou une vie de violence, ou une vie complètement déréglée, indiscipline, pas de travail, de dépendre de ceux qui vont donner de l'argent à gauche et à droite. Une vie déréglée, indisciplinée. Ou d'avoir une occupation qui était considérée comme immorale pour gagner sa vie. Ou tomber dans l'escroquerie, le vol, le mensonge. Donc, il y avait une catégorie de gens dans la population qui étaient considérés comme des pécheurs. Puis eux, ils pouvaient se tenir ensemble parce qu'ils étaient rejetés des autres. Parce que juste d'être en contact, pour un pharisien, d'être en contact, de toucher un pécheur, il croyait qu'il se souillait automatiquement. Donc, ils étaient tenus loin. C'est pour ça que là, ils sont indignés, ils sont outrés de voir que Jésus accueille ces gens-là auprès de lui. Ils sont choqués d'après la compréhension qu'ils ont. Pas parce que Jésus faisait quelque chose de mauvais, pourtant ils condamnent Jésus, mais simplement parce qu'il les accueillait auprès de lui. Donc, soit qu'ils étaient en train de dire « Jésus se rend impur en faisant cela », ou peut-être qu'ils l'accusent d'approuver leur style de vie, de devenir comme participant de leur péché, comme un complice. Juste du fait qu'il les accueillait. Donc, de sympathiser avec le péché. Pourtant, est-ce que Jésus a déjà approuvé le péché dans son enseignement? Au contraire, il parlait des paroles dures, là, des paroles qui annonçaient le jugement, qui annonçaient l'enfer pour ceux qui ne se repentent pas. Jamais il n'avait des paroles qui étaient simplement pour plaire aux pécheurs, pour les attirer. Il leur parlait dans le casque, là, comme on peut dire en québécois. Donc, on ne pouvait pas accuser Jésus d'approuver leur style de vie. Mais il les accueillait volontiers, comme ils étaient. Et ce qui était le comble pour les pharisiens, c'est qu'ils même ils mangeaient avec eux. Manger, à l'époque, c'était quelque chose d'important. On l'a vu dans chapitre 14, que Jésus utilise à quatre reprises, dans quatre petits discours, quatre histoires, le thème du repas. Alors que lui-même est en train de participer à un repas, il est invité pour montrer la relation dans un repas entre les hommes et Dieu, ou entre les hommes entre eux. Pour finalement conclure que vers la fin des temps, ce qui attend ceux qui seront dans le royaume de Dieu, c'est de prendre part au grand repas, le grand banquet avec le Seigneur lui-même. Donc, que Jésus se présente comme un maître et qu'il accepte de manger avec des pécheurs, des péagers, c'était choquant pour les chefs religieux. Et il le méprisait. Il méprisait Jésus, il méprisait les pécheurs, il murmurait. Ça veut dire qu'il le critiquait ouvertement. Donc, Jésus, voyant cela, voyant leur mépris, il va leur raconter trois paraboles. Ce matin, on va en voir seulement deux. La parabole de la brebis perdue et la parabole de la drachme perdue. C'est une pièce perdue. La troisième qui est bien connue, c'est le fils perdu, qu'on appelle le fils prodigue. Mais les trois paraboles, finalement, ont un message très semblable. Ce qui était perdu peut être retrouvé. On va voir si les deux premières, qui sont des paraboles semblables, pour montrer qu'est-ce qui est important pour Dieu. Le Dieu qu'on adore, là, qu'est-ce qui est important pour lui? Qu'est-ce qu'il aime? Et en même temps, une pierre deux coups pour dénoncer la mauvaise attitude des pharisiens. Donc, regardons la première parabole, verset 3. Il leur dit cette parabole. Donc là même, il leur dit, on comprend qu'il est en train même de parler premièrement aux pharisiens et aux scribes qui murmurent contre lui. Mais tous l'entendent. Et c'était clair dans la tête de Jésus qu'un jour même, 2000 ans plus tard, on lirait même cette parabole-là. Donc elle est adressée à tous, mais déjà, il s'adresse particulièrement aux pharisiens. Il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins, et il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est une belle illustration, non? Vous voyez l'image sur votre bulletin d'un berger qui est prêt à aller sur le bord du précipice pour aller chercher une brebis qui est mal prise. Avez-vous déjà vu cette image-là quelque part? Oui. Oui, c'est un tableau qui est peint, je ne sais pas par qui. Un Miguelou? Ah oui, c'est très beau. Au-dessus de l'abreuvoir, vous irez voir, dans le hall d'entrée. Mais c'est une belle illustration, ça montre vraiment le cœur de Dieu qui nous aime. On l'a chanté à plusieurs reprises ce matin, sa grâce envers nous. Un Dieu qui est amour. Et à l'époque, cette illustration-là d'un berger qui a perdu une brebis, c'est facile à comprendre pour eux. Aujourd'hui, peut-être qu'on est moins familier, mais on peut quand même saisir. Et c'était très réaliste à l'époque de comprendre qu'un berger, avec le temps, il prend soin de ses brebis et il s'attache à elles. Et une brebis qui est partie, c'est précieux pour lui. Pourtant, on pourrait dire que c'est seulement une sur 100. Perdre un centième de ses revenus, c'est pas la fin du monde. Mais on voit pour le berger, la brebis, elle est chère pour lui. Puis il sait qu'elle est perdue, peut-être par stupidité, elle s'est sauvée. Elle n'a pas suivi le troupeau. C'est sûrement de sa faute si elle est perdue, mais il a pitié pour elle. Puis il veut aller la chercher. Et c'est plus que simplement parce qu'il a perdu quelque chose, une source de revenus, mais il est attaché. On voit qu'il a... C'est sous-entendu qu'il y a comme une sorte de pitié ou de compassion. Il veut aller chercher la brebis, et sans relâche. C'est une illustration qui était déjà présente dans l'Ancien Testament. Le prophète Ésaïe, il prophétise, il dit, « Voici mon Seigneur, l'Éternel, il vient avec puissance. Son bras lui assure la domination. Voici qu'il a son salaire et que ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. » Ou dans Ézéchiel, c'est moi, Ézéchiel 34, « C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer. Oracle du Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. » C'était déjà une image dans l'Ancien Testament. Dieu disait qu'un jour, il viendrait pour aller récupérer les brebis perdues. Et comment ça s'accomplit? Bien, en Jésus. En tout cas, un premier accomplissement, c'est en Jésus. Jésus est justement en train de faire cela. Il n'est pas venu pour perdre les hommes, mais pour venir sauver ceux qui sont perdus. C'est ce qu'il va dire dans Luc 19, verset 10. « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc, Jésus est presque en train de leur dire, à eux qui connaissaient les prophéties de l'Ancien Testament, « Je suis l'Éternel en action sur la terre. » C'est presque une déclaration de sa divinité. En tout cas, à ceux qui pouvaient l'entendre, ils pouvaient être frappés de cela. Lui-même, il s'identifie avec le berger d'Israël. Et on voit ici tous les efforts que le berger fait pour retrouver sa pauvre brebis perdue. C'est-à-dire qu'il... Bien, on le comprend qu'il laisse les 99 dans le désert. C'est pas qu'il les fait souffrir. C'est une manière de dire qu'il les laisse dans le pâturage, là, dans l'enclos, pour aller chercher celle qui est perdue. Mais il sait pas où est-ce qu'elle est perdue. Donc, c'est sous-entendu qu'il peut chercher longtemps. Là. Donc, il y a un effort soutenu jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. Même si peut-être c'est difficile, ça demande un effort souffrant même, mais ça démontre à quel point cette brebis-là est précieuse pour le berger. La deuxième chose qui montre à quel point elle était précieuse, c'est la joie qu'il a lorsqu'il la retrouve. Il la met sur ses épaules pour la transporter rapidement à la maison, pour fêter avec ses amis, avec ses voisins. La joie qui déborde de son cœur montre à quel point elle était précieuse, cette brebis qu'il a retrouvée. Donc, on peut faire le parallèle avec Jésus. Ça montre le cœur de Jésus, qui est le même cœur que Dieu le Père. Jésus est dans la joie de retrouver une âme perdue. Et ça compense pour toute la souffrance qu'il peut vivre. Et c'est par amour, finalement, qu'il marche présent dans le récit, qu'il est en train de marcher vers Jérusalem pour mourir. Comment il peut persévérer jusqu'à la fin? Bien, il est poussé par son amour pour les âmes perdues. Comme le berger va chercher sa brebis. Donc, sa joie, c'est celle de Dieu. Et il a dit clairement, il y a de la joie dans le ciel, même pour un seul pécheur qui se repent. Ce qui peut être plus difficile à comprendre, c'est la comparaison qui est faite avec les 99. Il dit qu'il y a plus de joie pour la brebis retrouvée que pour les 99 qui n'étaient pas perdus. Ou pour le pécheur qui se repent, plus que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Certains ont compris, j'ai lu quelques commentateurs qui ont compris qu'il s'agit de... Les 99 justes représentent les Israélites à l'époque de Jésus qui arrivaient à suivre la loi de manière satisfaisante et qui étaient déjà considérés comme justes aux yeux de Dieu. Donc, ils n'étaient pas perdus. Ils n'avaient pas besoin de se repentir. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas le cas. Jésus, tout le long de son ministère, il enseigne qu'il n'y a personne qui est juste finalement. Et le standard de Jésus pour dire qu'on a satisfait la loi, ce n'est pas juste à peu près ce que nous, on pourrait croire qui est satisfaisant. C'est d'être parfait. Soyez saint comme votre Père est saint. Parfait comme votre Père céleste est parfait. Jésus s'est évertué à montrer qu'il n'y a pas de juste. Tous ont besoin de se repentir. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Donc, qu'est-ce que c'est que ces justes-là? Je crois que c'est tout simplement de l'ironie. Et ce n'est pas la première fois que Jésus utilise cette manière-là pour... Dans le fond, pour percer la mauvaise attitude, l'orgueil dans le cœur des pharisiens qui se croient justes. Il l'a déjà fait, mais dans les chapitres précédents, il va le refaire. On voit au chapitre 16, on va le lire dans les prochaines semaines, les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et ils raillaient Jésus. Mais il leur dit, « Vous, vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. » Au chapitre 18, Luc 18, 9, il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Finalement, quand Jésus compare, c'est simplement pour dire aux pharisiens, celui qui se repent, là, Dieu est content parce qu'il s'est repenti. Vous, vous croyez que vous êtes déjà juste. Il n'y a pas de joie au ciel pour vous. Là. Vous vous prenez pour des justes. Vous vous déclarez vous-même juste alors que vous ne l'êtes pas. C'est un peu comme si un professeur disait à ses élèves, j'aime mieux un élève qui s'efforce pour trouver, qui fait des travaux, là, qui s'efforce d'étudier pour avoir les bonnes réponses, que les élèves qui ont déjà toutes les bonnes réponses, qui savent déjà tout. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à sa classe? Il n'est pas en train de dire qu'il y a réellement des élèves qui savent déjà tout. Il est en train de dire, ceux qui n'étudient pas parce qu'ils savent tout, là, je ne suis pas fier d'eux. Là. Moi, j'aime mieux celui qui étudie, qui reconnaît qu'il a besoin d'étudier. C'est une manière de parler, c'est de l'ironie. Et Jésus, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais l'accent de la parabole est plutôt sur la brebis qui était perdue et qui est retrouvée. Sur le pécheur qui s'est repenti. Et qui est réconcilié avec son Dieu. Et qui fait la joie dans le ciel. Il y a une réjouissance dans le ciel, même pour un seul pécheur qui se repent. Donc l'accent est mis sur la brebis qui était perdue, envers qui le berger a eu de la pitié. La deuxième parabole, celle de la drachme, met plutôt l'accent sur la personne qui a perdu. Plus que sur la chose perdue, pour montrer à quel point elle était précieuse et que c'est une perte, une souffrance pour la personne qui l'a perdue. C'est presque pareil, là, mais c'est juste l'accent qui est différent un peu. Verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perd une drachme, je ne sais pas si on doit dire drachme ou drachme, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines. Elle dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. C'est très similaire, cette parabole. C'est encore une recherche active jusqu'à temps de l'avoir trouvée. Qu'est-ce que c'est qu'une drachme? C'est une pièce d'argent. Puis on pense que ça représentait la valeur du salaire d'un ouvrier pendant une journée. Donc, un homme travailleur, il recevait son salaire et ça pouvait représenter une drachme. Donc, c'était quand même une bonne somme. Et à l'époque, les femmes n'avaient pas nécessairement le même salaire, mais donc pour une femme qui a ses possessions en elle, ça représente même plus. Puis là, on voit ici qu'elle n'avait que 10 drachmes. Donc, c'est un dixième qu'elle a perdu. On comprend que c'est pas une petite perte. Pour elle, c'est précieux. On voit combien c'est précieux pour elle parce qu'elle est prête, quand elle l'a perdu, à allumer une lampe parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de fenêtres dans ces maisons-là. À tout, chercher partout dans la maison, passer le balai pour être sûr de la retrouver. Finalement, quand elle la retrouve, l'autre chose qui montre comment c'était précieux pour elle, c'est la joie qu'elle a. Encore une fois, elle veut fêter avec ses amis, ses voisines. « Hey, venez, j'ai retrouvé ma drachme. » Sa joie est très grande. Donc, on voit le langage qui est légèrement différent. Dans la première parabole, c'est la brebis qui est perdue. Ici, c'est la femme qui a perdu la drachme. C'est légèrement différent. Mais l'accent est mis sur le fait que la femme souffrait d'avoir perdu cette drachme-là. Je pense qu'on peut voir un accent particulier dans la douleur de Dieu d'avoir perdu les âmes. Si les âmes sont considérées comme perdues, c'est parce qu'il les avait, qu'il a été privé de cette communion avec sa créature. La créature perdue a de la valeur parce que c'est sa propriété, finalement, il est privé de la joie d'être en relation avec elle. Pour Dieu, c'est une douleur d'avoir perdu ses âmes. Et il souhaite les retrouver. Il est peiné d'avoir perdu ce qui est précieux pour lui. Donc, Dieu est dans la joie, un peu comme cette femme se réjouit. Est dans la joie. Dieu est dans la joie lorsqu'une âme est retrouvée, est repentie, est réconciliée avec lui. Donc, on voit vraiment une âme, un homme qui se repent. Ce qui est sous-entendu derrière cela, c'est qu'il s'est finalement réconcilié avec Dieu. Il a recommencé d'être en relation avec Dieu. Il a retrouvé sa position de membre du peuple de Dieu. Et Dieu se réjouit même avec ses anges. Il y a de la joie même devant les anges de Dieu. On s'imagine que tout le royaume dans les cieux, là, le royaume céleste est dans la joie. C'est la fête lorsqu'un homme ou une femme se repent, se convertit. Donc, je pense que ces deux paraboles soulignent un élément important de la grâce de Dieu. Ça nous est permis de... Je pense qu'on est autorisé à voir un élément de la grâce, que c'est Dieu qui prend l'initiative. Puisque la chose qui est perdue, ici dans l'image du berger, la brebis est perdue, c'est le berger qui prend l'initiative d'aller la retrouver. Il fait des efforts. Il met en œuvre son action pour aller la chercher. Dans l'autre cas aussi, la femme, c'est elle qui prend l'action, l'initiative d'aller chercher. C'est pas juste parce que quelqu'un l'a trouvé puis il lui ramène. Elle-même, elle met l'effort de balayer sa maison, de la trouver. Je pense qu'on est autorisé à faire un parallèle avec Dieu qui lui-même prend l'initiative, puisqu'il nous aime. C'est lui qui vient chercher les âmes. Les âmes ne se retrouvent pas automatiquement par un effet mystérieux rattaché à lui. C'est lui qui vient les chercher. Le monde était perdu et Dieu a tellement aimé le monde, c'est lui qui a pris l'initiative. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé, ne périsse pas, et soit finalement réconcilié avec lui. Et comment ces âmes-là sont ramenées à lui? Mais par la repentance de ceux qui croient en Jésus. C'est tout simple, finalement. C'est le message que Jésus disait à tous ces pécheurs, ces péagers qui voulaient l'entendre. Croyez en moi. Vous ne pouvez pas être sauvés par vous-même. Et puisqu'ils étaient pécheurs, c'était plus facile pour eux de comprendre cela. Ils étaient perdus. Ils pouvaient comprendre. J'ai besoin d'un sauveur. Je ne peux pas me sauver moi-même. Et ils se repentaient de leur vie passée pour une nouvelle vie par la foi dans les paroles de Jésus. Et c'est encore de cette manière-là, toute simple, qu'on est sauvé. Mais c'est très engageant, ça engage toute notre vie. C'est de croire dans les paroles de Jésus qui dit qu'il est mort pour payer la dette de nos péchés. Si on croit cela sincèrement de tout notre cœur, on renonce à notre vie passée. Et maintenant, on débute une nouvelle vie pour marcher par la foi en Jésus. Et automatiquement, il y a de la joie dans le ciel lorsqu'on fait cela. Parce qu'on est reconnecté, on est réconcilié avec Dieu pour une nouvelle vie. On est retourné dans le troupeau du berger ou retourné dans le portefeuille de la propriétaire. Et la semaine prochaine, on va voir la parabole du fils prodigue. Et ça s'inscrit dans le même enseignement. C'est que Dieu veut pardonner aux pécheurs repentants. Et Dieu considère les pécheurs comme des âmes perdues, comme le fils qui était perdu et qui va retourner à son père. Et c'est une grande joie quand ça se produit. Donc, si on revient au contexte ici des deux paraboles, à qui Jésus s'adresse lorsqu'il raconte ces paraboles-là, c'est premièrement aux pharisiens. Pourquoi? Parce qu'ils dénoncent leur mauvaise attitude. Eux qui disent aimer Dieu, ils ne se réjouissent pas des mêmes choses que Dieu. Comment ça se fait que leur cœur est si différent de Dieu? Quand on aime vraiment quelqu'un, là, normalement, on va se réjouir des mêmes choses. Si quelqu'un, notre ami est dans la joie, nous aussi, on va être dans la joie. Si notre ami pleure, on va être dans la tristesse. Si vraiment on l'aime. Donc, si vraiment on aime Dieu, on va se réjouir des mêmes choses qui font plaisir à Dieu, qui le réjouissent. Mais ici, les pharisiens qui prétendent aimer Dieu ne sont pas du tout contents qu'il y ait des pécheurs qui viennent entendre la parole de Jésus. Même le texte semble... En tout cas, ça ne le dit pas. Mais il y a probablement des pécheurs qui se sont convertis, qui se sont réellement repentis ce jour-là, qui sont devenus des disciples, qui ont été sauvés. Pourquoi les pharisiens ne se réjouissent pas que des pécheurs soient finalement réconciliés avec le Dieu d'Israël? Parce que leur cœur est mauvais. Ils ne souhaitent pas cela. Ils souhaitent garder une distance. Eux, ils sont les justes. Ils se sont élevés eux-mêmes par orgueil. Ils auraient dû se réjouir, comprendre que tout pécheur qui se repent fait la joie de Dieu et s'en réjouir eux-mêmes, s'ils aimaient vraiment Dieu. Donc, cette leçon-là est pour nous, je pense. On devrait avoir un cœur qui aime la même chose que Dieu. Et ce qui devrait faire notre joie, c'est de voir une âme sauvée. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que ce n'est pas automatique ce qu'on ait un cœur selon Dieu. Mais plus on lit sa parole, plus on est en relation avec Dieu, qu'on le prie, qu'on est quotidiennement dans la présence de Dieu, plus on aime, on développe un amour pour Dieu, et forcément, on va aimer ce qu'il aime, on va aimer les hommes Il y a des femmes qu'il veut sauver. Et on va être dans la joie. On va vouloir même, c'est une autre leçon pour nous, on va vouloir même participer à cela activement, comme Jésus le faisait. Si vraiment on aime Dieu, on va vouloir faire comme lui, être comme un berger qui va chercher la brebis perdue. Mettre des efforts pour trouver la drachme qui est perdue. On va devenir comme Jésus. C'est ça d'être un chrétien. C'est être comme Jésus, d'avoir le même désir que lui. On va avoir vraiment un fardeau pour ceux qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Et ça va être une motivation pour nous, pour évangéliser. Même si ça demande des efforts, c'est notre fardeau pour les âmes perdues qui va faire en sorte qu'on va persévérer dans le témoignage qu'on a devant le monde en tant que chrétien, même lorsque ça nous coûte, même lorsque ça nous apporte des souffrances. Un exemple de cela, c'est Paul. Il a été touché vraiment par l'amour de Jésus parce qu'il était un ennemi de l'Église. Jésus l'a pardonné, lui a fait grâce et il l'a nommé son serviteur. Paul était tellement touché de cela qu'il a voulu tout de suite emboîter le pas de Jésus. Et il est devenu un grand évangéliste. Et il a subi toutes sortes de souffrances. Comment il a pu persévérer jusqu'à la fin? Mais c'est parce qu'il était motivé par le même amour que Dieu a pour les âmes perdues. Et il voulait évangéliser. On lit dans Philippiens 2, 17 et 18. « Même si je sers de libation, ça dit même si moi-même, ma vie est comme en train de servir de sacrifice, en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même. Réjouissez-vous avec moi. » Donc, Paul, même dans la grande souffrance, pouvait se réjouir. Il était dans la joie parce qu'il faisait ce qui plaît à Dieu. Et lorsque Dieu et les anges se réjouissent, ses serviteurs se réjouissent. Et il invite les Philippiens à se réjouir avec lui. Et ça devrait faire notre joie. De toute façon, tous ceux parmi vous qui ont déjà expérimenté de présenter l'Évangile et de voir une personne donner sa vie au Seigneur devant vous, c'est une joie immense. Il y a quelque chose de surnaturel, c'est spirituel la joie qu'on éprouve lorsqu'on assiste à une conversion. Tous ceux qui sont perdus sont précieux pour Dieu, on ne doit pas en douter. Donc ayons à cœur ce que Dieu a à cœur. Amen.